Et on y va avec vous, Serge Bradet. 400 ans d'histoire de l'éducation à Québec, le précieux héritage des Ursulines, un texte d'Alex Tremblay-Lamarche.
Oui, dans la Journal de Québec.
Dans la Journal, toi.
Dans la Journal de Québec. Le 14 septembre dernier. Alors, septembre est synonyme de rentrée scolaire. Et au moment où les élèves de partout au Québec reprennent le chemin de l'école, le pôle culturel du monastère des Ursulines vous propose d'en apprendre davantage sur l'héritage éducatif des Ursulines. Depuis avril, la nouvelle exposition « Grandir chez les Ursulines » invite le public à découvrir, au moyen d'objets, de récits et d'archives, près de 400 ans d'histoire de l'enseignement à Québec et l'empreinte durable des Ursulines sur la société québécoise. Et c'est une exposition, je suis allé voir hier, vérifier, une exposition qui est permanente. Alors, elle va durer, pas quelques mois, mais probablement quelques années, quand c'est permanent.
Mais souvent, quand c'est permanent, on se dit, on a le temps, puis on n'y va jamais.
Oui. C'est donc le moment idéal pour offrir un rapide tour d'horizon de la contribution majeure des Ursulines à l'éducation et de manière plus générale au Québec. La suggestion d'article m'a été faite par deux de mes amis, Jocelyne Beaune et Daniel Ouellette, que je salue.
Ils sont à l'écoute en ce moment?
Oui, je pense bien, et qui m'envoient souvent des articles. Ça serait intéressant pour ta chronique, intéressant pour ta chronique.
Ah, ils sont gentils.
Oui, oui.
Vous avez des bons amis.
Oui, oui. Puis j'ai une chronique même que j'ai refilée à Isabelle pour un autre tantôt,
oui,
si ça l'intéresse. Oui,
moi aussi, vous êtes très gentils.
Oui.
On s'entraide.
Oui, ben oui. Au 17e siècle, la France se relève de guerres de religion qui ont amené chez les catholiques une ferveur nouvelle. Devant la montée du protestantisme, plusieurs dévots cherchent à convertir les âmes à la vraie foi. Québec n'a beau n'en être encore qu'à ses débuts, elle attire déjà plusieurs missionnaires qui souhaitent venir à la rencontre des Premières Nations pour leur apporter la foi et leur enseigner. C'est dans ce contexte que trois religieuses entreprennent un projet audacieux. Fonder la première école pour jeunes filles de la Nouvelle-France. Il s'agit de Marie de l'Incarnation, de son vrai nom Marie Guillard, Marie de Saint-Joseph, Marie de Savonnière de Latroche, et Cécile de Sainte-Croix, Cécile Richer. Elles sont accompagnées par leur bienfaitrice, Marie-Madeleine de Chauvigny, mieux connue sous le nom de Madame de la Pelletrie, et de la servante de cette dernière, Charlotte Barry. Ensemble, elles traversent l'Atlantique et débarquent à Québec le 1er août 1639, où elles ouvriront une école et fonderont un monastère.
The Girl Power.
Oui. Rapidement, on confie aux Ursulines des jeunes filles autochtones et françaises. Fait intéressant, comme ce ne sont pas tous les parents qui disposent d'argent sonnant et trébuchant pour payer les frais de scolarité de leurs filles, plusieurs paient en céréales, en bois de chauffage, en viande, en barils d'anguilles salées, en beurre et même en terre. Et ça, c'est quelque chose qui est resté assez longtemps. J'ai un ami, moi, qui a fait, il étudiait à Saint-Hyacinthe,
oui,
dans le collège, et il était pensionnaire, et les parents étaient cultivateurs. Ils amenaient comme ça des choses pour payer l'éducation de leurs enfants.
Oui, oui, des bidons de lait, etc.
Ouais, Après avoir enseigné pendant quelques années dans une maison de la Basse-Ville, les Ursulines s'installent en Haute-Ville avec leurs élèves en 1642. Et les élèves des Premières Nations et celles d'origine française ont essentiellement le même programme. Catéchisme et histoire religieuse, lecture, écriture, calcul et, évidemment, travaux à l'aiguille. Indispensable. Les religieuses enseignent ainsi à différentes communautés, mais vers 1725, les Ursulines ferment leurs classes autochtones. Cela s'explique entre autres parce que la ville de Québec n'est plus le carrefour qu'elle était jadis pour les Premières Nations. Ça s'est déplacé vers Montréal. Les Ursulines continueront toutefois à accueillir des élèves des Premières Nations tout au long de leur histoire par la suite. Après avoir accueilli des élèves autochtones françaises et canadiennes françaises, les Ursulines ouvrent leurs portes aux jeunes britanniques au lendemain de la conquête, anglaises, écossaises et irlandaises, qui vont grossir les rangs de leurs élèves. Et évidemment, au fur et à mesure que la population du Québec se diversifie, ben, il y a d'autres communautés qui sont arrivées.
Merci Serge. On poursuit cette histoire de l'éducation au Québec des Ursulines avec vous au retour de la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et on retourne au 19e siècle. Serge, vous nous parlez du précieux héritage des Ursulines. Il y a des Américaines qui vont visiter les Ursulines.
Exactement, oui, oui, des jeunes Américaines. Certaines, telles les sœurs Sarah Anne et Russia Holmes, demeureront au Québec où elles se marieront avec un Canadien français après leurs études. D'autres prendront le voile et demeureront au monastère. C'est notamment le cas de leur sœur, Joséphine Holmes, qui devient mère Sainte-Croix et joue un rôle important dans le développement de l'enseignement des sciences chez les Ursulines. De nos jours, l'école des Ursulines continue à accueillir des enfants de partout dans le monde. Elle compte des jeunes de plus d'une quarantaine de nationalités différentes en ses rangs. Quand même, faut le souligner.
Considérable, oui. Ouais.
Les Ursulines considèrent les arts comme un outil essentiel de formation. Calligraphie, broderie et musique s'intègrent à l'enseignement afin de développer discipline, goût du beau et sens pratique. Dès le 17e siècle, Marie de l'Incarnation et ses consœurs enseignent les travaux d'aiguille aux élèves du monastère. Dans les années 1820, la peinture s'ajoute au cursus et plusieurs autres disciplines artistiques s'ajoutent au programme dans les années qui suivent. Pensons entre autres à l'orgue, la harpe, l'accordéon et à de multiples autres instruments de musique, ainsi qu'à la confection de fleurs et de fruits artificiels. Certaines religieuses se distingueront d'ailleurs en enseignant les arts pendant de nombreuses années. C'est notamment le cas de Mère Saint-François Borgia, Émilie Miville-Deschênes, qui enseigna longtemps le dessin, et de Sœur Marie du Crucifix, Marie-Claire Charles, qui donna des cours de piano pendant plus de 50 ans. Au milieu du 19e siècle, il y a eu ce qu'on appelle peut-être une seconde fondation. Les Ursulines revoient considérablement le cursus scolaire offert entre les murs de leur école. Sous l'impulsion de Mère Saint-Henri et de l'abbé Thomas Maguire, alors aumônier de la communauté religieuse... je l'ai francisé. On rehausse considérablement le programme. Alors que l'enseignement se centrait sur l'instruction religieuse, la lecture, l'arithmétique et les travaux à l'aiguille, au 16e et 18e siècle, au 17e et 18e siècle, on se met à enseigner aussi l'anglais, la mythologie, l'astronomie, la géographie, le dessin, la peinture, la chimie, la physique et bien plus encore. Les sources vont même jusqu'à parler d'une seconde fondation, justement, pour les Ursulines. Et parmi les objectifs de cet élargissement du cursus scolaire, citons la volonté de concurrencer les écoles anglophones qui se font de plus en plus importantes afin d'attirer une clientèle bilingue et multiconfessionnelle au monastère des Ursulines. Elles peuvent pour se faire compter sur quelques religieuses américaines, telles que Mère Saint-Augustin, Elizabeth Dougherty, et Mère Marie de l'Incarnation, Cecilia O'Conway, qui sont formées en géographie, en histoire et en sciences et en langue. Et évidemment, les Ursulines ont innové en faisant la promotion des sorties au grand air.
Ah oui?
Oui, alors restez pas toujours dans les classes, à l'intérieur. Il faut sortir, il faut s'aérer, il faut faire de l'exercice, même pendant l'hiver. Et durant l'été, une partie des jardins est transformée pour que les élèves puissent jouer à l'extérieur. Une partie des cours d'histoire naturelle, botanique, zoologie, minéralogie, géologie se fait à l'extérieur où l'on observe la nature, récolte des spécimens pour faire des herbiers et identifie des espèces végétales. Au 19e siècle, l'intérêt pour les sciences croît considérablement. Et plusieurs sociétés savantes voient le jour et les familles de l'élite souhaitent offrir à leurs filles une éducation plus diversifiée. Désireuses de répondre à cette demande, les Ursulines enrichissent leur programme en y intégrant plusieurs disciplines scientifiques, telles que la physique, la chimie et l'astronomie. Et elles font venir d'Europe et des États-Unis du matériel pédagogique de grande qualité et adoptent des méthodes pédagogiques favorisant le raisonnement et l'analyse. Ce qui était assez avant-gardiste hein, pour l'époque.
Complètement.
Oui. Une œuvre d'enseignement qui dépasse les frontières de Québec. L'œuvre d'éducation des Ursulines ne se limite pas à Québec. Dès 1697, elles fondent un second monastère à Trois-Rivières avec l'objectif d'éduquer les jeunes filles et de soigner les malades, puisque la ville ne dispose pas de moyens suffisants pour accueillir deux communautés de religieuses différentes. En 1882, elles ouvrent à Roberval la première école ménagère du pays afin de fournir une éducation aux filles de colons qui s'installent dans la région. Et deux ans plus tard, en 1884, elles s'installent à Stanstead, dans le diocèse de Sherbrooke, où elles ont la mission de fonder une école catholique au cœur d'un milieu anglophone et protestant. Alors, on essayait de s'intégrer
le milieu anglophone.
Oui. En 1924, les Ursulines répondent à l'appel de Mgr François-Xavier Ross et ouvrent l'École normale de Gaspé. Et dans les décennies suivantes, elles dirigent aussi un pensionnat, un institut familial et plusieurs écoles paroissiales. Au 19e siècle, la population du Québec augmente rapidement Et à la demande, pour des instituteurs et institutrices qualifiées ne cesse de croître. Afin de s'assurer que ces derniers disposent d'une formation qualifiée, la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada crée les écoles normales en 1856. Trois établissements voient le jour. L'École normale de Jacques-Cartier à Montréal.
C'est drôle comme qualificatif, hein, une école normale.
Oui, oui. Ça n'existe plus, une école normale, ça, je pense. Ça n'existe plus, une école normale. Je pense pas.
Les écoles anormales?
Non, ben oui. L'École normale Laval à Québec et l'École normale de l'Université McGill, qui a pour mission de desservir la communauté anglophone. C'est dans ce contexte que les Ursulines se voient confier la section féminine de l'École normale à Laval. Et au début du 20e siècle, plusieurs fois s'élèvent pour que les filles puissent aussi bénéficier du cours classique, alors réservé aux garçons. Et en 1908, un premier collège classique pour filles, le Collège Marguerite Bourgeois, ouvre ses portes à Montréal. Et 15 ans plus tard, le collège... Bravo, hein?
Yeah.
15 ans plus tard, le Collège Jésus-Marie à Sillery offre leur premier cours classique pour filles dans la région de Québec. Bien vite, plusieurs autres collèges classiques pour filles sont fondés. Et entre 1932 et 1938, 8 voient le jour au Québec. Bon progrès. C'est dans ce contexte que les Ursulines offrent le cours classique et le cours commercial à compter de 1936. Et aujourd'hui, l'héritage éducatif des Ursulines se poursuit grâce à l'École des Ursulines de Québec et le pôle culturel du monastère des Ursulines. Alors que l'école perpétue sa mission d'enseignement en se concentrant depuis 1998 sur le niveau primaire et en accueillant les garçons depuis 2010, le pôle culturel du monastère des Ursulines conserve et met en valeur près de 4 siècles d'histoire et de pédagogie. Il a notamment pour mandat de gérer le musée et ses collections, de conserver les archives historiques et administratives de la communauté et de concevoir des projets qui mettent en valeur le riche legs culturel, artistique, éducatif et religieux des Ursulines. Et justement, la nouvelle exposition « Grandir chez les Ursulines » permet au grand public de plonger dans cette mémoire collective en découvrant objets, témoignages et documents liés à la vie religieuse et des élèves. Le pôle culturel du monastère des Ursulines organise conférences, concerts et visites guidées, en plus d'accueillir le public dans la chapelle des Ursulines qu'il est possible de visiter gratuitement durant les heures d'ouverture du musée. Donc, c'est à voir si vous allez...
Avez-vous l'adresse?
Non, c'est près de la chapelle. Ça ne dit pas grand-chose, là, mais c'est dans le Vieux-Québec, mais je sais
pas. OK, dans le Vieux-Québec.
Oui. C'est toujours un texte d'Alex Tremblay-Lamarche, directeur général du pôle culturel du monastère des Ursulines.
Oui, parce qu'on a deux endroits à aller, là.
Oui,
on reste
au
Rumba, à Val-des-Sources, et puis aussi au monastère des Ursulines. Oui, Mathieu?
C'est au 12 rue Donnacona.
Ah, merci beaucoup. Mm-hmm. Vraiment un précieux héritage. Oui, là, oui, super oui, titre. Oui. Merci, Serge, de nous avoir parlé des Ursulines.